Bonsoir à toutes et tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec pour présenter ce soir cette émission, Mathieu et Damien, Claude à la technique. Alors nous profitons d'une petite pause de match de foot dans ce mondial pour consacrer notre émission de ce soir aux dérives du sport professionnel. Nous l'avons intitulé « Sport et business, un modèle pour gagner ». Des salaires mirobolants, des transferts faramineux, des dettes abyssales, des clubs rachetés par les plus grandes fortunes de la planète, mais aussi du dopage, de la corruption, des tricheries, portées par la médiatisation et la starification, le sport professionnel tombe de plus en plus dans ses dérives. La glorieuse incertitude du sport tend à disparaître au profit d'une guerre économique comme les autres. Plusieurs questions se posent à nous ce soir. Comment sauvegarder les valeurs originelles et les vertus éducatives du mouvement sportif que sont le dépassement de soi, la solidarité et le respect de l'autre ? Comment réintroduire du politique pour contrebalancer la domination de l'économie dans le sport ? Pour répondre à ces questions, nous recevons deux invités. Béatrice Barbus, maître de conférence en sociologie du sport à l'université de Créteil, ex-présidente de l'US Ivry Handball et ancienne vice-présidente de la Ligue Nationale de Handball, et aujourd'hui membre de la Fédération Française. Et Thomas Avenel, objecteur de croissance, coordinateur de l'association de La Roue Libre, basée au Havre, œuvrant pour la promotion du vélo et co-auteur d'un article intitulé « Le sport est devenu un outil au service de la croissance avec le collectif pour un projet de croissance », article récemment sorti. De décroissance, pardon, excusez-moi. Vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10 et la retrouver ensuite, comme toutes les précédentes, sur le site internet de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org. L'émission sera rediffusée mercredi prochain à 7h sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.
Commencer ce soir sur cette émission sur le sport business, nos invités vont peut-être un peu nous éclairer sur cette expression un peu barbare qui associe le sport et le business. Quelle est votre vision de ce sport business, de la domination de l'économie dans le sport ? Qui commence ?
Moi, je vais bien me lancer. Alors, dans ce que vous avez dit, on va partir quand même faire un petit point de départ, un petit détour vers l'histoire un petit peu du sport, parce que vous avez entendu parler des valeurs originelles du sport, de sport business, etc. Le sport, c'est le sociologue Norbert Elias qui l'avait dit en premier, le sport c'est un vocable un peu comme le mot industrie, c'est un vocable fourre-tout, on y met un peu tout et n'importe quoi.
Beaucoup de choses.
Et qui n'ont pas forcément le même sens et le même contenu d'ailleurs, vis-à-vis des pratiquants, vis-à-vis des spectateurs, etc. Donc le sport, ça vient d'un vieux mot français qui veut dire se divertir, des sports, se divertir, s'amuser. Et au départ, c'est effectivement le baron Pierre de Coubertin qui l'a importé en France d'Angleterre. C'était une activité que l'on faisait dans les public schools pour rendre plus autonome, plus responsable et faire un peu l'économie de la discipline dans la formation des élites anglaises.
Oui, et déjà une forte dimension éducative.
Absolument, c'est là où je voulais en venir. Donc des vertus éducatives, et c'est ce que vous appeliez ces valeurs originelles, le fair play, qui comptait beaucoup plus que la performance, bien évidemment. Donc il s'agissait davantage de faire du sport pour s'épanouir, pour se développer physiquement, mentalement, plutôt que d'être performant et d'avoir des résultats à tout prix.
Ça, c'est le sport. Ce basculement.
Alors, c'était à la fin du 19e siècle, début 20e siècle pour la France. Ça s'est développé en Angleterre au moment de la révolution industrielle. Donc, le sport, c'est une catégorie qui est construite. C'est pour ça qu'on dit de valeur originelle. Elle est pas originelle par nature. C'est l'homme qui l'a construite au moment de la révolution. Et c'était en France, surtout une activité qui, au départ, telle que je viens de le définir, était pratiquée par l'élite, par les notables, par les nobles, par l'aristocratie française. Et ce sont eux qui ont développé cette activité. Et ensuite, l'activité a été conquise par les classes populaires. Conjointement, il y avait également du sport professionnel qui existait dans la boxe, par exemple. La boxe, dès le 19e siècle, en Angleterre, dans les années 1860-1850, il y avait de la boxe qui se faisait dans les foires. Dans les foires, où il y avait des cirques, où il y avait des cirques, des foires. Donc c'était un spectacle. Et les boxeurs se faisaient rémunérer. Il y avait également du sport professionnel. Le premier sport professionnel aussi en Angleterre, ça a été bien sûr le foot. C'était pratiqué par les classes populaires. Donc, de manière évidente, parce que ces hommes, parce que c'était des hommes, ces hommes issus des classes populaires ne pouvaient pas faire du sport pour s'amuser. Ils avaient un travail. Donc, pour pouvoir faire du sport, ils ne pouvaient le faire qu'en étant professionnels. C'était un travail pour eux. Donc, déjà, conjointement, dès la fin du 19e, début du 20e en France, il y a eu conjointement du sport amateur. Et c'est ce que vous entendez, vous, quand vous dites sport et quand tout le monde emploie le mot sport, et du sport professionnel. Et il y a eu un combat tout au long du XXe siècle entre les défenseurs de l'amateurisme et ceux qui voulaient en faire, d'un point de vue professionnel, leur travail. Et c'est allé très très loin, puisqu'on a des cas très célèbres. Le plus célèbre en France, c'est dans les années 30, Jules Ladoumergue, qui était un athlète, un coureur, à qui on a enlevé ses records du monde, parce que sous prétexte qu'il avait gagné de l'argent en travaillant à la Société Générale, c'était même pas pour participer à un meeting, on lui a enlevé ses médailles, comme Paavo Nurmi, un Finlandais, à qui on a enlevé ses médailles d'or aussi aux Jeux Olympiques. Donc il y a tout un tas de sportifs qu'on a retiré des circuits du sport traditionnel, parce que ils étaient professionnels. Si, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Chariots du Feu,
il y a longtemps.
Et bien dans ce film-là, il y en a un des deux qui est entraîné par un entraîneur professionnel qui est convoqué par les dirigeants de son université et qui lui font la leçon en lui disant c'est inadmissible, un gentleman ne fait pas du sport de manière intéressée, c'est pas ça le sport, ça correspond pas aux vertus du sport originel.
C'est pas forcément paradoxal en fait.
Pas du tout, c'est là où je voulais en venir.
C'est
là où
ce qui est marrant, c'est que c'est pas si récent que ça, ce débat entre le sport amateur, le sport professionnel. On pourrait avoir une vision comme ça, se dire bon... C'est peut-être à partir du moment où vraiment l'économie a pris le pouvoir, mais en fait non, c'est...
Ah non, ça a pratiquement un siècle, ce débat a un siècle. Ceci étant dit, le sport professionnel s'est réellement développé de manière importante, c'est ce que vous appelez, vous, le sport business, là, de manière importante, il s'est développé à partir des années 1980-90 surtout, voire même début des années 2000, hein, quand on regarde les choses très précisément, qu'on essaye de les mesurer par un certain nombre d'indicateurs. Si je prends le football, qui est toujours le sport qui est montré comme l'archétype du sport professionnel aujourd'hui et du sport business, le foot s'est réellement professionnalisé au début des années 2000, hein, vraiment, pas avant. Donc quand les droits TV sont arrivés massivement, et encore quand on dit il s'est professionnalisé, pas sur tous les plans, il s'est professionnalisé pour les sportifs, c'est-à-dire qu'ils en vivent, pour les footballeurs, ils en vivent même très bien pour un certain nombre d'entre eux, mais le professionnalisme ne se réduit pas à une question d'argent et de salaire. Si on regarde la structuration d'un certain nombre de clubs, il y a des choses à dire et on peut pas considérer parfois qu'ils fonctionnent de manière très professionnelle. D'ailleurs, la démission il y a quelques jours d'Elena Costa qui est partie de la L2, c'est pas pour parler des femmes que je dis ça, mais dans son communiqué, elle dit bien, voilà, il manque de professionnalisme, etc., dans la manière dont on m'a géré, quoi. Et donc le professionnalisme, on a le sport professionnel, le business, on a tendance à le restreindre et à le réduire à la question de l'argent et des salaires. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et donc ce sport professionnel qui est devenu aujourd'hui un business, vous disiez que effectivement les logiques économiques avaient pris le pas sur la logique sportive, c'est ce qui me fait dire, moi en tout cas, que ce n'est plus du sport. Au sens de Pierre de Coubertin, au sens où il s'est développé il y a plus d'un siècle. C'est aujourd'hui devenu un spectacle. Un spectacle sportif comme un spectacle culturel, où on est là pour produire un spectacle et de la performance.
D'accord. Thomas, peut-être un point de vue là-dessus ou peut-être un diagnostic sur les dérives justement des années post-90, post-2000 sur ce
oui,
sport business.
Vous avez appelé l'émission, si je ne m'abuse, sport et business, la formule pour gagner. Oui. Je ne sais pas si c'est une formule pour gagner, en tout cas c'est une très bonne formule.
Il y a un point d'interrogation. Hein.
Oui, ironie, ouais, effectivement. Mais en tout cas c'est une bonne formule pour créer de la croissance. C'est pas un hasard, je pense, Béatrice le disait, si c'est dans les années 80 que ça s'est vraiment amplifié, c'est ce qu'on appelle aussi les années fric. Hein.
La néolibéralisation.
Exactement.
Correspond à plein de mouvements économiques et sociaux.
Du point de vue des objecteurs de croissance, le sport, c'est vraiment, et le titre de notre article le dit bien, c'est vraiment un outil indispensable à la croissance. Nous, on définit la croissance notamment par trois... trois outils, trois bras armés, on va dire, qui sont la pub, la dette et l'obsolescence programmée. Et je crois que le sport répond au moins à deux de ces bras. La pub, là je vais le détailler, même si ça semble évident à tout le monde, on a de la pub autour des terrains, autour des parquets, on a de la pub sur les maillots, sur les shorts, sur les chaussettes, sur les chaussures.
On arrête même le sport des fois pour de la pub.
On arrête même le sport pour de la pub, tout à fait. On attend que la pub soit terminée pour donner le coup d'envoi de la seconde mi-temps. On a des marques sur le nom des stades maintenant, la MM Arena, la Kind Arena. Enfin, c'est les Allemands qui ont commencé, je crois, dès les années 90 avec le naming. On a même maintenant, je pense que c'est la phase ultime des noms de marques dans les clubs, dans les noms de clubs. C'est le cas à Salzbourg en Allemagne, où le club de foot s'appelle le Red Bull Salzbourg. On retrouve Red Bull d'ailleurs un peu partout, dans la Formule 1.
Attends, ça sera même les championnats. Joueurs,
les championnats aussi.
Et dans les championnats, oui, bien sûr. Oui, la Liga Orange.
Ouais, Orange Top 14.
La Liga Orangina au Portugal. Enfin, voilà. La Barclays Première Ligue. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de marques dans ces noms de compétition. Ça, c'est le bras de la pub, on va dire. Et puis le bras de la dette, qui est peut-être la vision qu'on voit le moins, qui à la fois au niveau des clubs qui s'endettent pour acheter les meilleurs joueurs, pour payer des salaires mirobolants aux meilleurs joueurs, mais aussi la dette au niveau social, écologique, environnemental, parce que finalement le sport business, ça demande des infrastructures gigantesques qui sont la cause de pillage de ressources, en matière première notamment, mais pas uniquement. Ça demande du matériel. Donc ça participe aussi de cette industrie textile qui interroge aussi les rapports nord-sud par rapport à notre consommation. Il y a beaucoup d'aspects comme ça au niveau de la dette qui peuvent être également mis en avant. Et tout ça fait que c'est un peu un cocktail qui fait que pour la croissance, le sport est indispensable. Ensuite, je pense que le sport est devenu un business le jour où on a... Enfin, on ne pourrait pas identifier ce jour sur un calendrier, mais le jour où la compétition a pris le pas sur le plaisir, sur le partage, sur le jeu. Moi, je pense que Pierre de Coubertin était plutôt dans cette notion, effectivement, de jeu, même si plus haut, plus vite, plus fort, il y a quand même un aspect au niveau des limites qui, moi, en tant qu'objecteur de croissance, me pose un problème. On ne peut pas aller plus haut, plus vite, plus fort, sans gaspiller toutes les ressources de la Terre, mais et sans gaspiller aussi finalement notre humanité, parce que il y a aussi des limites physiques et des limites psychiques à avoir. Quand la compétition a remplacé le partage, là on est rentré dans une. Alors effectivement, moi je pense qu'on est passé du jeu au sport. Vous disiez qu'on est passé du sport au spectacle sportif. Moi je pense qu'on est passé du jeu au sport, ce qui ne veut pas dire que le jeu n'existe pas. On peut très bien faire de l'ultimate à la forêt avec ses copains, ça reste du jeu. Est-ce que c'est un sport, c'est une autre question. En tout cas je pense que dernier point sur le sport business, c'est aussi et là c'est quelque chose qui rejoint finalement le modèle de croissance dans lequel la société est lancée, c'est aussi les GP2I. J'en ai pas parlé, mais les grands projets inutiles imposés avec les grandes. Ça rejoint les infrastructures, les grands stades, les grandes salles, même si c'est plus souvent des stades qu'on met en avant.
Mais on pourrait même faire le lien avec le troisième bras, l'obsolescence programmée, parce que en fait, c'est des stades qui peuvent être construits pour une compétition. Et qui finalement ne serviront pas.
C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, je cherchais justement
sur le troisième bras de la croissance.
C'est vrai que c'est des infrastructures qui en général servent 30 jours dans l'année quand c'est un stade avec un club résident. En général, on essaye de faire des concerts, des événements un peu particuliers autour, ce qui transforme aussi à la fois l'infrastructure et l'expérience. Moi, quand j'étais petit, j'allais voir mon équipe de foot locale au stade jouer. Aujourd'hui, les gens qui ont, les gamins qui ont 10 ans, ils vont au stade avec leurs parents voir un spectacle. Effectivement, ça transforme l'expérience supporter en expérience spectateur, ce qui
influe directement.
Voir consommateur.
Voir consommateur.
Ce qui influe directement le prix des places aussi.
C'est aussi un problème. Effectivement. Et puis il y a effectivement aussi dans les stades beaucoup de maintenant les boutiques à l'entrée. Vous avez les boutiques à vendre, entrer dans la tribune. Vous avez la pub tout autour du terrain, on y revient. Enfin voilà, c'est une expérience de spectateur et de consommateur qui est poussée à l'extrême.
Moi, je ne sais pas si on peut dire que, les dérives qu'on a évoquées viennent vraiment du passage du jeu à la performance, parce que même originellement, il y a un aspect de dépassement de soi. Il y a quand même l'idée d'être meilleur que l'autre, même si c'est dans le respect, même si on peut s'amuser, même avec son adversaire, en jouant de façon amateur. Moi, j'ai plus l'impression que les dérives du sport business qu'on décrit, elles sont apparues à partir du moment où des gens vont se regrouper pour aller voir des gens faire du sport, parce que ça crée un public. Donc c'est là que petit à petit va se mettre en route une démarche de publicité avec des entreprises qui vont faire de la publicité, la médiatisation, parce qu'en fait tout ce qu'on évoque là, sans médiatisation, ça n'aurait pas pris une telle ampleur. C'est la médiatisation qui va entraîner des plus gros budgets, qui va entraîner une recherche encore plus importante de la performance. Voilà, c'est mon point de vue. Béatrice Barbus, quel est votre point
Je vous rejoins un petit peu. C'est pas le fait de passer à la compétition, c'est pas quelque chose de malsain en soi. La compétition, effectivement, ça peut être d'abord la compétition vis-à-vis de soi-même. Aller plus haut, plus loin, plus vite, c'était d'abord par rapport à soi-même. C'était pas seulement par rapport aux autres. Et c'était une devise éminemment individuelle. Et donc, si je voulais donner une définition du sport, le sport, c'est, elle est pas de moi, elle est de Pierre Perlebas. C'est une action motrice. Donc, il faut que le corps soit en mouvement. Alors, okay, les échecs, en tant que tels, c'est pas un sport. Mmh. Il faut qu'il y ait une compétition. Il faut qu'il y ait, et que cette activité soit institutionnalisée par des championnats, par des organisations, etc. Donc, c'est le jeu sportif, par exemple faire du frisbee ou jouer au foot le dimanche ou faire son footing, comme ça pour son bien-être. Si je prends cette définition très restrictive, ce n'est pas un sport. C'est un jeu sportif, une activité physique et sportive, mais on n'est pas dans le sport. Donc le sport, c'est une activité vraiment très restrictive, comme je viens de le dire, le business, c'est vrai, vous avez raison de dire que là où les choses ont commencé à changer, c'est quand le professionnalisme a pris de l'ampleur parce que, et que les médias sont arrivés. Si on prend l'exemple du cyclisme que vous connaissez, qu'est-ce qui a fait que le cyclisme est devenu professionnel au début du siècle? C'est bien parce qu'il y a de l'industrie vélocipède qui est arrivée avec les médias, l'auto, et puis qui est devenue l'équipe, etc. C'est quand même eux.
C'est surtout l'arrivée des Américains.
J'en parle, il y en a l'industrie qui disait, moi je produis. Moi, j'en parle, et toi, tu pédales.
C'est surtout l'arrivée des sponsors sur les maillots, je pense.
Donc, voilà. Donc, c'est l'industrie.
L'équipe nationale.
Donc, c'est l'industrie.
Oui, on est d'accord.
Donc, c'est l'industrie. Donc, c'est pas la compétition en tant que telle qui a fait le sport business. C'est pas du tout.
Donc, ça la renforce, cet esprit compétitif, et ça crée des dérives pour s'assurer encore plus la victoire.
En plus, quand on y réfléchit, de quelle compétition on parle? Il n'y a pas de compétition en réalité. On sait qui va gagner la Ligue des Champions. On sait qui va gagner le championnat quasiment à l'avance. La corrélation. La corrélation est, là, les études économiques le montrent très clairement. Il y a quelques exceptions, mais ce ne sont que des exceptions. Il y a une corrélation positive assez nette entre l'importance budgétaire d'un club, et ses résultats sportifs. Oui. Donc, elle est où la compétition? Elle est où la compétitivité? Il est où l'équilibre compétitif là?
Il y en a heureusement, pas. C'est vrai qu'il y a les exceptions, peut-être minoritaires, mais par exemple, vous parlez du handball cette année. Le PSG Handball n'a pas gagné alors qu'il y avait un budget largement supérieur à Dunkerque.
Et l'année où on a été champion en 2007, c'était le cas
c'était
aussi.
L'exception aussi.
Oui, 2007, il faut attendre 2014 pour voir une autre exception.
Le reste du temps, c'était Montpellier. Donc.
Voilà. Donc c'est des exceptions tous les 10 ans, ça arrive pratiquement dans tous les sports et ça arrivera de moins en moins.
Mais du coup, quand il y a une exception, on oublie un peu cette logique. Ça nous rassure, mais quelque part aussi, c'est un peu somnifère. Parce que,
c'est exactement ça.
Là, il peut encore avoir
l'exception. Et puis, on parle de la beauté du sport dans ce cas-là, ce qui pourrait sous-entendre que le reste du temps, il n'est pas spécialement beau. Ce qui n'est pas mon point de vue, mais c'est sémantiquement, c'est intéressant. Moi, sur la notion de compétition, effectivement, la compétition n'est pas forcément ce qui a créé le sport business. Par contre, elle est indispensable à sa perpétuation. Quand une entreprise, quand un émir, quand on investit des millions, voire des milliards de dollars dans une équipe, dans un joueur, on attend un retour sur investissement, tout simplement. Ce qui pousse aussi à la dérive par rapport au dopage, par rapport au match truqué, etc.
Et
c'est donc...
Là, c'est la performance. Pas vous baisse toujours plus la croissance, toujours plus.
Oui.
Hein, le productivisme, toujours plus, toujours plus. Ça, c'est la définition même de la performance. Et là, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit. Le sport, effectivement, il n'est pas hors de la société. Il vit le mouvement, il vit dans sa société. Et la société, on le sait, depuis les années 80, 90, est devenue quand même une société de la performance. Il faut toujours se dépasser. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à vous dépasser, vous allez voir un coach ou un psy qui va vous aider à le faire. Donc, il y a toujours quelqu'un pour vous aider à le faire. Donc, le sport, de ce point de vue-là, ce n'est pas une exception non plus. Donc, c'est depuis que la performance est devenue une fin ultime, que là, on a commencé à voir poindre de manière assez importante un certain nombre de dérives dont vous avez parlé, d'ailleurs qui ne sont pas les seules. Là, vous avez parlé des plus visibles, celles dont on parle le plus.
Alors, peut-être
je vous propose peut-être
une pause musicale et on pourra parler de justement de ces dérives moins visibles, les minorités. Voilà, je vous propose d'écouter Rimini des Vampas.
Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission animée par la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Ce soir, le thème de l'émission, je vous le rappelle, sport et business. On était en train d'évoquer les différentes dérives du sport business et Béatrice Barbuse, vous vouliez évoquer d'autres dérives qu'on n'avait pas mentionnées.
Oui, il y a des dérives dont on parle pas, ou qu'on commence en tout cas à voir ici et là, à entendre, mais vraiment, vraiment, vraiment de manière parcimonie, avec parcimonie, c'est les dérives mentales, psychologiques, ce qu'on appelle en gestion des ressources humaines les souffrances au travail, les maux du travail. Donc là, c'est les maux du travail sportif, tout simplement.
Les burn-out
Notamment burn-out, stress, angoisse, dépression, tentative de suicide, suicide parfois, notamment à l'arrêt de la carrière, addiction à l'alcool, à la drogue, le dopage, vous en parliez. Donc autant de choses qui existent aussi dans le milieu traditionnel, professionnel, il n'y a pas que dans le sport. Sauf que là, ça surprend parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on pense que dans les vertus du sport, le sport c'est bon pour la santé, c'est bon pour aussi bien la santé physique que mentale. Et là, quand on rentre dans le sport business ou dans le spectacle sportif, on s'aperçoit que les acteurs ne se portent pas aussi bien que ça quand on fait une enquête et quand on va regarder un peu les choses. Je vais vous parler d'un cas précis et puis d'un autre dans le cadre d'une enquête que je suis en train d'effectuer sur ces questions-là. La première, c'est un peu un cas qu'on pourrait qualifier d'idéal typique. C'est le cas de Raphaël Poulain, qui était joueur de rugby professionnel au Stade Français, effectivement, à la fin des années 90, début des années 2000, qui a participé donc au Dieu du Stade, les calendriers qu'il a fait pendant plusieurs années, qui a arrêté précocement sa carrière parce que tout simplement son corps ne pouvait plus. Si je vous cite exactement tout ce qu'il avait, 7 agrafes, un écrou, une plaque, 10 vis, 1m50 de cicatrices, une couille en moins, un genou en carton-pâte, 17 entorses, une petite vingtaine de déchirures. Ça, c'est pour l'ensemble de sa carrière. Ça calme.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Donc, il a écrit un livre, là, il y a en 2011, qui s'appelle « Quand j'étais Superman ». Et après, à l'arrêt de sa carrière, il est tombé au RSA, il a fait beaucoup de dépression, un burn-out, et il essaye depuis de se relever. Et il écrit dans ce livre, je vais vous citer un petit passage qui illustre aussi ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur l'obsolescence, qui peut aussi s'appliquer aux hommes et aux sportifs. Il dit « À nous de nous retaper sur nos propres gravats. Trop occupés par leur système d'entreprise à faire tourner, ils préparent déjà la saison d'après sans se soucier du passé. » Il faut rester dans la lumière médiatique, recruter pour remplacer de vieilles bagnoles mises à la casse en plein milieu de la trentaine. Pas le temps de penser à l'humain. Il faut renouveler le bétail pour faire venir le peuple. Voilà ce qu'on est. Donc des mots quand même assez durs et qui montrent à quel point. Et aujourd'hui, il fait des conférences autour de son livre. Et je peux vous dire, pour y avoir assisté, donc dans les centres de formation, pour expliquer aux jeunes qu'il faut faire attention à la manière dont on gère sa carrière et pas faire n'importe quoi. Et pour expliquer au club aussi qu'il y a peut-être à prendre en compte le facteur humain du sportif, qui n'est absolument pas pris en compte. Là, ce que l'on prend en compte aujourd'hui, c'est uniquement le facteur de la performance. Il y a de plus en plus de gens qui sont autour du sportif, mais ils ne s'occupent pas du sportif. Ils s'occupent de l'aspect de la performance du sportif. Ils ne s'occupent pas de l'humain. Et donc, lui, il fait ses conférences qui sont un peu théâtralisées. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est les yeux des spectateurs. Ils sont étonnés d'entendre ça. Ils sont vraiment étonnés. Parce que nous, on a l'habitude de voir des sportifs qui sont beaux, etc., qui se portent bien.
Et qu'une fois qu'ils sont plus en carrière.
Je vais vous donner une autre anecdote. C'est pas une anecdote, c'est une réalité. J'ai interviewé une coach qui suit une trentaine de footballeurs, principalement professionnels, de L1 et de L2. Elle peut pas en suivre plus, pour bien faire
coach
son travail.
Coach dans le sens coach personnel.
Préparatrice mentale, elle est plutôt que ça. Ouais, préparatrice mentale, elle est pas psychologue. Elle a une formation, elle est docteur en psychologie. Et elle me disait l'autre jour, donc lors de notre entretien, que les souffrances sont énormes. Les pressions viennent de toutes parts. Les pressions viennent de l'entourage. Une fois qu'ils sont professionnels, vous avez souvent un entourage qui compte sur le sportif pour qu'il réussisse, pour qu'il amène de l'argent, qu'il paye une maison à ci, à ça. Vous avez le club, vous avez les sponsors, vous avez les pairs, les autres collègues. Elles m'ont raconté l'histoire d'un qu'on appelait le fragile parce qu'il avait des petits bobos par-ci, par-là, parce qu'il stressait avant les matchs. Bon, bah, celui-là, il était stigmatisé. Il ne faut surtout pas montrer qu'on est fragile. Parce que si vous montrez que vous êtes fragile, qu'est-ce qu'ils vont faire le staff? Qu'est-ce que va faire le staff, l'entraîneur? Il ne va peut-être pas vous qualifier. Et si vous n'êtes pas qualifié, votre cote, elle baisse.
Bien sûr.
Et donc après, vous prenez le risque de ne plus être sportif.
Ils sont souvent, peut-être qu'ils ne sont pas préparés non plus, parce qu'en fait, ils arrivent très tôt dans ce milieu.
C'est ce qu'elle me disait pour conclure, et les solutions, parce que mon idée, c'est d'essayer de trouver quand même des solutions pour parer tout ça. C'est effectivement qu'ils ne sont pas préparés. Donc il faut les y préparer dès le centre de formation, mais pas seulement. Aussi quand ils pratiquent. Comme dans le milieu du travail, tous ceux qui travaillent tous les sociologues et les psychosociologues qui travaillent sur les thématiques des risques psychosociaux disent la même chose. Il faut des espaces de parole dans les milieux professionnels. Il faut que les gens puissent s'exprimer, y compris sur leurs souffrances. Et c'est pas parce qu'ils s'expriment sur leurs souffrances qu'ils ne peuvent pas être bons. Au contraire, ils n'en seront que meilleurs.
Mais c'est l'image, c'est l'impression qu'ils doivent avoir. Ils doivent se dire, si je suis faible psychologiquement, le groupe...
Je vais être faible sportif.
Je vais être abandonné, je sais pas ce qu'ils se disent.
C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'ils se disent. Donc ils taisent et ils cachent leurs souffrances. Et quand ils prennent un coach, comme je viens, ou un préparateur mental dont je viens vous parler, ils le prennent en cachette. Ils ne le disent pas. Sur les 30, elle me disait qu'il y en a deux qui le disent publiquement.
Mais il y avait un reportage récemment sur Canal+, sur le sujet. Et
le revers de la médaille.
Ils étaient obligés de le cacher. Et
ah oui,
même les préparateurs sportifs ne pouvaient pas dire les noms des sportifs parce qu'il y en a qui l'acceptaient pas.
Ouais. Et donc, à ce propos, vous parlez d'un reportage, un documentaire sur Arte qui est passé il n'y a pas très longtemps, le revers de la médaille. Il y a même pas un mois, là, il y a 15 jours, où on parle de non seulement l'érosion des corps, mais aussi l'érosion du mental qui se traduit donc par tout ce dont je vous ai parlé. Il y a une surreprésentation qui est extrêmement importante chez les sportifs de dépression, de burn-out, et qui n'est pas liée seulement au surentraînement. Hein. Parce qu'il y a du surentraînement aussi, vous en parlez, tout à l'heure, vous parliez de performance toujours plus. Le nombre d'entraînements s'est accru au rugby par 4, si mes souvenirs sont bons, en 10 ans. C'est énorme.
Le rugby est passé professionnel entre-temps.
Comment ? Oui, depuis qu'il est passé professionnel. Je parle depuis qu'il est passé professionnel, oui, tout à fait. Il y a une densification des compétitions au niveau national et international. Pourquoi ? Comme vous le disiez tout à l'heure, Thomas, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné,
ça rapporte.
Donc il faut que la Ligue des Champions, ça rapporte. Il faut que la Coupe du Monde, ça rapporte. Il faut que le Championnat de France, ça rapporte. Il faut que la Coupe de France, ça rapporte. Il faut que la Coupe de la Ligue, ça rapporte. Et vous retrouvez pris dans un système qui est vicieux et qui duquel vous pouvez pas vous sortir. J'ai plombé l'ambiance là.
Non, non, non. Je me mettais à la place de l'auditeur, à se dire demain je regarde le match ou j'éteins
si,
la télé.
Si, mais forcément ils vont regarder le match et même moi je vais regarder le match. On regarde tous le match parce que être spectateur c'est pas être à l'intérieur. C'est nous on regarde du jeu, nous on regarde, on veut se ressentir des émotions et heureusement qu'on se dit pas tout ça
mais
quand
ça,
on regarde.
Ça pose question quand même sur éthiquement en tout cas.
On participe se dit, quand même à ça regarde, finalement parce que
oui on y participe.
On fait partie
en plus
des de spectateurs de TF1.
Bien sûr qu'on y participe. Mais comme on participe, pour en revenir sur vos thématiques, sur votre champ, comme on participe à des souffrances de certains salariés en achetant certains produits.
Moi, dans ce que vous disiez sur,
on n'est jamais
sur les, voilà, sur les risques psychosociaux, effectivement, enfin, l'impératif d'être toujours de bonne santé, de bonne humeur, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve, alors peut-être effectivement à des degrés moindres en termes de conséquences, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, dans la société. Enfin, voilà. On n'a pas le droit d'être malheureux au travail, on n'a pas le droit d'être malheureux dans la vie de tous les jours, il faut montrer qu'on est fort, etc. Enfin voilà, on est toujours dans cette... Il y a des liens très forts. Effectivement, le sport fait partie de la société, n'est pas...
D'ailleurs, la première phrase du jour, c'est « Bonjour, ça va ?» Tout le monde répond « Ça va ?» Il n'y a pas de...
Oui,
rarement, ça va pas.
Personne ne dit...
Amusez-vous à dire « Ça va pas ?» Vous allez rigoler. Regardez la
manière de dire
«
Ça va ?» qui peut faire...
Oui, mais c'est vrai que souvent, on dit « Ça va ?» quand même.
Oui, c'est le coup, je pense, au livre de... Vous voyez, 1992, le livre de Vincent Goljak et Nicole Aubert, qui s'appelait « Le coup de l'excellence », où déjà, il dénonçait tout ça. Et il n'y a aucune raison que le sport soit exempt de ça. Aucune. À partir du moment où il devient un travail, dans une économie de marché ultra libérale, je ne vois pas en quoi il pourrait échapper à ça.
Et d'ailleurs, vous parlez du moment où le sport est un travail, mais bon, ça s'est répercuté en dehors. On pourrait imaginer que le sport hors fédération soit un peu éloigné de ses préoccupations. C'est pas du tout le cas. On voit bien avec le cycliste du dimanche qui prend son vélo à 10 000 euros, avec les gamins qui ont besoin d'avoir les dernières chaussures à la mode, voilà, les joggeurs qui font des kilomètres sur des tapis sans bouger de la salle de sport. Enfin, on est dans ce culte toujours de la performance, dans ce culte d'aller chercher quelque chose au fond de soi. Et quand on fait, moi j'ai fait un peu de jogging pendant quelques temps, avant de me rendre compte que c'était pas mon truc, et je me rendais bien compte que j'essayais d'aller plus vite que la personne à côté, parce que voilà, il y a un petit aspect.
Mais si tu fais pas de croche-patte, ça va.
Non, sur un tapis on peut pas faire de croche-patte.
Tu peux accélérer le tapis, quoi.
Ah, mais si tu te bats contre toi-même, à la limite.
Mais là on est dans les excès. Là on est dans les excès. On va pas non plus noircir le tableau. C'est-à-dire que le sport c'est quelque chose. Moi je milite pour que les gens fassent plus de sport. Parce que ceux qui n'en font pas, on connaît aussi les dégâts que ça peut faire, et on le voit bien. Et c'est un sujet aujourd'hui de santé publique quand même, le fait que les gens se soient sédentarisés et que le poids, etc., les maladies cardiovasculaires, enfin c'est l'alimentation, tout ça c'est quand même un problème aujourd'hui. Et le fait de faire du sport, ça c'est quand même une manière de mieux se sentir. Donc c'est tout en est dans l'excès, tout est une question d'équilibre. Aujourd'hui. Oui, mais c'est-à-dire.
Bah, vous faites un peu de promotion avec la roue libre. Enfin, pour le coup, même si c'est du vélo, enfin, les gens viennent faire du vélo.
Oui, enfin, c'est pas vraiment le vélo en tant que sport qu'on promeut dans l'association. Ouais, c'est plus du vélo utilitaire.
Activité sportive.
Activité
voilà,
physique, ouais.
C'est pas, vous voyez.
Oui, on se met pas en spectacle non plus.
Non.
C'est rare parce que dans les différents thèmes qu'on aborde, là, on voit bien que le sport peut pas être un domaine tout comme ça, isolé, protégé du reste des tendances sociales, économiques. On voit qu'il y a, il est imprégné des différents mouvements qui se passent à droite.
Ah oui, mais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il a des conséquences en termes économiques qui se répercutent dans la vie de tous les jours. Il se trouve que le sport se fait souvent le soir, donc ça demande une consommation d'énergie qui est plus importante. Il se trouve que on centralise aussi pas mal les compétitions sportives, ou alors qu'elles se déplacent, donc ça engendre effectivement des déplacements, des parkings gigantesques, des gens qui font 20, 30, 40 kilomètres, voire plus, en voiture pour aller voir un spectacle sportif. Tout ça, ça a des impacts en termes écologiques, en termes sociaux, en termes économiques, qui sont totalement liés aussi à la société de croissance. On ne peut pas distinguer les deux, c'est évident.
Mais là, vous parlez aussi de considérations qui sont éminemment économiques. Il y a quand même des vertus sociologiques et sociales au fait que des gens se rassemblent, au moins pendant ces moments-là, même si c'est des moments qui sont pas durables dans le temps, mais au moins les gens se parlent.
Mais c'est à quel prix, en fait
Alors, je pense pas à la Coupe du Monde, ou je pense pas à des choses qu'on peut voir ici et là dans les tribunes ou ailleurs. Je pense pas à ça. Je pense effectivement à toutes ces associations sportives, 16 millions quand même de licenciés aujourd'hui en France. Moi, pour avoir dirigé un club qui avait plus de 400 adhérents, je voyais quand même toutes les vertus qu'avait le sport, surtout dans une ville de banlieue où il y a des quartiers parfois difficiles. Ces jeunes s'épanouissent quand même en faisant du sport. Ça les fait sortir de leur quartier. Et puis, quand ils ont la chance de pouvoir faire des championnats nationaux sans pour autant viser d'être professionnel ou de faire du haut niveau, ça les fait sortir de leur ville. Ils vont un peu partout en France, etc. On fait des stages. Bref, ça leur apprend, en tout cas dans le sport collectif, à vivre ensemble, à vivre en collectivité, donc à apprendre certaines règles de vie. Donc le sport a quand même beaucoup, beaucoup de vertus. Moi, personnellement, je serais pas ici si j'avais pas fait du sport. Si j'avais pas fait du handball sur le plan personnel, je ne serais pas ici. Donc le sport, et ça c'est pas mesurable, ça on le quantifie pas, vous êtes d'accord avec moi? Comme disait Einstein, ce qui compte n'est pas mesurable, et ce qui est mesuré ne compte pas forcément. Donc effectivement, on peut considérer que d'un côté, il y a des économies externes, ok, c'est des effets négatifs sur l'économie, je suis d'accord avec vous, complètement, mais il faut le mettre au regard de ce que ça apporte. Et là, on est coincé, parce qu'on peut pas le mesurer. Nous, quand on a été champion de France, que je me rappelle avoir vu Lucas Ballot et qu'autour de lui, il y avait 30, 40 gamins, black, blanc, beurre, toutes les couleurs, avec des sourires énormes, je me dis, c'est génial. On les a fait rêver. Et ces gamins, après, on les a vus grandir, etc. Enfin, on a besoin aussi de s'identifier. On a besoin de rêver, on a besoin d'avoir des émotions. Le sport sert aussi à ça, quand même. Moi, je ne veux pas d'une société glaciale ou sous prétexte que toute activité humaine a forcément plus ou moins des inconvénients.
Bien sûr, hein, il n'était pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, mais
d'accord.
Voilà, c'était.
Alors, je vous rejoins.
Non, mais c'est bien, il y a du débat.
Il faut être conscient aussi de ça quand on voilà, quand on va voir un spectacle, quand on le regarde à la télévision, il faut avoir conscience des enjeux qui sont derrière. Mais effectivement, c'est
avant
aussi,
et après,
moi,
et puis pendant.
Moi aussi, j'ai des émotions parfois à regarder un match de tennis ou une étape du Tour de France. Ça m'arrive.
Ça arrive
d'avoir
encore
des émotions.
Pour moi, c'est vrai.
Béatrice, j'avais une question du coup sur le comment vous avez géré justement. Sur, vous parliez de vertu, de respect, justement ces jeunes qui venaient. Dans votre club, alors que vous êtes un club professionnel, enfin le discours, comment vous gériez en fait ce discours de vertu avec peut-être l'envie de ces jeunes de rejoindre l'équipe 1 ou je sais pas, ou la pression des parents ou la pression des entraîneurs ou
alors déjà c'était pas moi, c'était les éducateurs qui géraient les jeunes.
En tant que représentant.
Alors il y avait un discours qui était commun des jeunes jusqu'aux professionnels, et donc le discours on le faisait passer aussi auprès des professionnels. Donc c'était un état d'esprit qui consistait à dire que on n'est pas là pour faire la performance à tout prix et qu'il y a des choses à respecter. On respecte son partenaire, on respecte son adversaire, on respecte l'arbitre, on respecte l'entraîneur, on respecte les dirigeants, on respecte son maillot, on respecte le club, on respecte la ville. Bref, donc du respect. Et ça, c'est un discours qu'on tenait d'en bas jusqu'en haut. Alors, ben, on faisait des séances de formation interne où les entraîneurs étaient réunis, où on faisait passer un message, où on travaillait sur le message à faire passer. Les dirigeants se déplaçaient de temps en temps au match, etc. On allait voir comment ça se passait. Par exemple, je me souviens de deux jeunes filles qui avaient, ça s'était fini en bagarre générale, les moins de 18, parce qu'il y en a deux qui s'étaient fait traiter de sale noire par une équipe adverse où il n'y avait pas une noire, dont je ne citerai pas la ville. Je suis pas très loin d'Ivry, mais je ne la citerai pas. Et bah là, bon, forcément, elles ont répondu, elles ont frappé, et elles ont eu des dates. Donc, il a bien fallu aller les voir, leur faire la morale. Voilà, c'est du travail au quotidien sur le terrain, et puis auprès des professionnels, c'est un encadrement très strict, tout en les laissant quand même autonomes. Mais je veux dire, à chaque fois qu'il y avait un dérapage, il y avait sanctions, il y avait recadrage obligatoire. Obligatoire. Et puis on les sensibilisait en les faisant participer à des actions, que ce soit avec le secours populaire, que ce soit avec un maillot pour la vie, etc., pour leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas que le sport dans la vie, qu'il y a une réalité autour qui est toute différente de celle qu'ils vivent, qu'ils ont la chance de faire leur passion. Donc ça, c'était par exemple les partenaires. Nous, on a été leur faire visiter un chantier. On avait FH comme sponsor, et ben on a été leur faire visiter un chantier. Et quand vous avez un chef de chantier qui réunit tous les joueurs un matin où il fait moins 5, il y a de la neige, et qui leur dit ? Et là, on nous avait dit, le type là que vous allez devoir vous, c'est le zizou du chantier. Il est connu, apparemment, c'est un ponte. Et le type, il regarde et puis il leur fait, vous savez, vous jouez un match une fois par semaine, vous jouez votre vie une fois par semaine. Nous, c'est tous les jours la Climée qui joue leur vie. Je vous assure, pendant toute la visite, il n'y en a pas un qui a bronché.
Ouais.
Voilà, c'est tout ce travail un peu citoyen, un peu responsable qu'il faut faire quand on est dirigeant et mettre en place.
D'accord. Bah, justement, en parlant de travail citoyen, responsable, c'est un peu les prémices de la troisième partie. Alors, je vous propose peut-être une seconde pause musicale et d'écouter Volo. Et on revient avec nos invités à la suite. Mmh.
Je rentre du boulot, pas envie de réfléchir. La France a perdu. Je souris dans mon lit, parce que dans ma rue, y a pas un bruit. Bonne nuit.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic sur les dérives du sport business ce soir. Thomas Avenel, on était en train un peu d'aborder différentes solutions, différentes expériences pour contrecarrer un peu cette domination de l'économie dans le sport. Vous, chez les objecteurs de croissance, quelles sont un peu les idées que vous développez en la matière ? Vous avez écrit un article récemment sur le sujet.
Ouais, c'est un article qui est plus sur le constat, sur le diagnostic. Je crois que malheureusement, il y aura toujours du sport industriel dans une société industrielle. On pourra pas faire autrement. Donc, il faut à la fois changer le sport pour changer la société et changer la société pour changer le sport. Malheureusement, c'est un peu interdépendant. C'est un peu une la palissade aussi, ce que je viens de dire. Mais voilà, on va avoir les mêmes propositions. C'est-à-dire qu'il faut à la fois envisager les choses. À l'interne, il y a des mouvements qui se créent comme ça. Alors, c'est très très épiphénoménique, mais je sais pas si ça se dit comme mot. Vous avez le mouvement pour un cyclisme crédible, par exemple, qui a été lancé par des équipes sportives. Alors bon, qui est un peu de la démagogie finalement, mais c'est des tentatives quand même de.
C'est des équipes plutôt amateurs ou professionnelles.
Alors vous avez tout en fait. Ça a été lancé par des équipes professionnelles françaises principalement, et puis maintenant ça s'est élargi. Il y a, je crois, une bonne quarantaine d'équipes sportives cyclistes qui ont rejoint le mouvement, qui se battent pour un cyclisme propre.
Française ou c'est un peu sorti des frontières.
Maintenant c'est internationalisé, ouais, au niveau européen. Vous avez aussi un mouvement comme Tatane, qui est animé par Vicage de Rasso, qui promeut un football éthique, un football durable, un football joyeux, etc.
Responsable,
voilà. Vous avez ce genre de mouvement en interne. Vous avez aussi, on en parlera, je pense, des clubs de foot qui sont pris par des supporters. Alors c'est le cas historiquement à Saint-Pauli en Allemagne, mais il y a beaucoup de clubs en Angleterre où ça devient la règle. Alors qu'en Espagne, la démarche est plutôt l'inverse. Il y avait historiquement les socios, et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Et puis vous avez tout un mouvement qui va être obligé de se lancer de l'extérieur, voilà, la société qui va être obligée de changer le sport, avec voilà, pourquoi pas. Alors là, on va être obligé de lancer des pistes qui s'élargissent de la société vers le sport, avec notamment un plafond salarial. De même qu'on pourrait imaginer un revenu maximal autorisé, il faudrait un revenu maximal autorisé dans le sport, au niveau des sportifs, au niveau des présidents, au niveau des actionnaires.
Ça leur ferait drôle, ouais.
Ça leur ferait bizarre, ouais. Mais c'est déjà le cas. Ça existe un petit peu dans le sport américain, même si c'est quelque part à l'heure, parce qu'il y a toujours des exceptions. Et puis c'est des salaires cap qui sont quand même très très élevés, donc ça leur permet de bien vivre.
Ça existe dans le rugby aussi, en France.
J'allais le dire exactement. Ça existe dans le rugby. C'est un pourcentage de la masse salariale.
Voilà, c'est pas individuel.
C'est le pourcentage de la masse salariale par rapport au budget.
Voilà, c'est pas individuel, mais c'est une masse salariale sur l'ensemble du
budget
du club.
Ouais. Et puis bon, après vous avez également. Alors il va falloir remettre du sens aussi dans tout ça. De même qu'il faut remettre du sens dans la société, il va falloir remettre du sens dans la vie, dans le sport. On l'abordait un petit peu en début d'émission sur les valeurs originelles. Il y a malgré tout, j'y reviens, le sens des limites, limites physiques, limites environnementales, limites psychologiques. Il va falloir réinstiller beaucoup de non-violence, et on en parlait, je pense, c'est le rôle des éducateurs d'être dans cette vision de la non-violence, dans cette vision du respect de l'autre, de détruire un peu le mythe de l'individualisme, de la performance. Ça, c'est des choses qui vont prendre du temps, qui ne se feront pas qu'au niveau du monde sportif, qui vont se faire aussi, qui vont être nécessaires au niveau de la société pour rendre tout ça un peu plus désirable, un peu plus vivable, vivant et joyeux, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le monde du sport.
Béatrice, peut-être des exemples suite à votre étude ou par rapport à votre expérience
Je rejoins tout à fait Thomas sur l'idée qu'il faut à la fois un mouvement interne et un mouvement externe qui viennent de la société. Pour le mouvement externe, ça ne pourra à mon avis se faire de manière importante et vraiment efficace qu'au niveau européen, parce qu'aujourd'hui on sait bien, les compétitions elles sont d'abord internationales, européennes.
Mais au niveau européen, au niveau de la société, au niveau du politique
Au niveau du politique, au niveau de la Commission européenne, sur l'histoire du salary gap, à un moment donné il va falloir quand même poser vraiment cette question-là, même si ça dérange tous les libéraux et que, hélas, ils ont un point important. c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc, mais bon, il faut aller vers ça. Il faut. Et aujourd'hui, il y a quand même aussi pas mal de mouvements citoyens qui essayent de militer pour l'autre sport dont je vous parlais, qui est pas le spectacle sportif. Donc, que ce soit au niveau européen, je pense au Sinsang Sport et Citoyenneté, je pense au Sinsang auquel j'appartiens, Sport et Démocratie, où on essaye de prôner le bon sport, on va dire, auprès des politiques. Et quand je dis prôner, faire du lobbying pour dire, ben voilà, si vous devez mettre de l'argent, c'est plutôt là que là, quoi. Il y en a qui en ont plus besoin que d'autres. Donc ça, c'est un mouvement qui vient de la société extérieure au sport, même s'il y a des personnes comme moi qui viennent du sport, et c'est le cas dans Sport et Démocratie. Mais on essaye de militer en dehors du sport pour faire avancer les choses beaucoup plus vite.
Vous avez le droit aux deux casquettes, hein. Enfin, c'est que représentant de la société civile et du sport, enfin, ça n'empêche pas de...
Non, pas du tout. Au contraire, on sait de quoi on parle, justement, en tant que société civile. On sait de quoi on parle du sport, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, on peut, effectivement, à l'intérieur du sport, on trouve aujourd'hui pas mal. C'est encore à l'état embryonnaire, mais on voit, effectivement, il y a Vikash Dorachaud qui fait beaucoup de choses avec Tatane. Et qui milite pour un sport responsable. On voit d'autres associations, je pense à Sport Rising qui est une association aussi française qui milite pour les scopes, notamment les sociétés coopératives, qui milite pour le sponsoring participatif. On voit ici et là apparaître des choses. Alors il y a les clubs aussi qui essayent de mettre en place des politiques de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise, mais là c'est à l'état plus qu'embryonnaire. Je lisais un article là, qui est paru il n'y a pas très longtemps dans la revue Open de Management et du Sport sur cette question à l'OL. Donc c'était un cas pratique qui montrait la RSE à l'OL et qui disait voilà, on était à l'état embryonnaire, quoi. En fait, on fait ça plutôt pour l'image, la notoriété.
Puis finalement, on copie un peu le modèle industriel.
On copie l'entreprise, on est une entreprise, donc on copie l'entreprise, forcément. Mais ça ne fait pas avancer vraiment les choses, c'est pour se donner une bonne conscience. C'est souvent pour légitimer les subventions publiques qu'on reçoit, ou les subventions, voilà, enfin bon, bref. Vous avez compris, je crois. Et donc après, en interne, bon, moi j'essaye de militer, j'essaye d'aller au-delà. Moi, ce que j'essaye de faire prendre conscience qu'il faut aussi gérer les ressources humaines différemment, les sportifs, les sportives, les autres salariés, parce que dans les clubs, il y a d'autres salariés qui s'occupent pas des domaines sportifs. Il y a des abus. Vous parliez de salaire. Quand on voit les salaires des autres salariés, même s'il n'y a pas d'enquête officielle, mais pour en les connaître à peu près, même un directeur, ils sont 3, 4, 5 à gagner peut-être plus de 5000 euros. Le reste, c'est une catastrophe. Quand vous voyez le club du PSG qui fait fonctionner des services, je dénonce, c'est pas grave, le club du PSG football qui fait fonctionner des services entiers avec des vingtaines ou des trentaines de stagiaires.
C'est du salary gap, pas du salary cap.
Voilà, exactement. Moi, ça me met hors de moi. Donc, il y a là aussi un problème de répartition des richesses à l'intérieur de ces organisations sportives qu'il va falloir, à un moment donné, mettre sur... Alors là, c'est pas gagné.
Sanctionner, peut-être.
On peut sanctionner. L'État peut réguler en partie, mais peut pas tout faire. Parce que ce qu'il faut comprendre dans l'organisation et la structuration du sport, c'est que l'État a laissé... le sport professionnel dont on parle depuis tout à l'heure, le sport business, il l'a laissé se développer tout seul. Donc il a acquis aujourd'hui une autonomie, une telle autonomie qu'on ne peut plus rien faire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les seules choses qu'on puisse faire, si vous avez une ligue professionnelle, elle signe une convention avec une fédération. La fédération, via une convention, délègue la gestion du secteur professionnel à une ligue. Donc dans cette convention, on peut y mettre des conditions. Mais quel président de fédération va dire un jour, et le président de fédération lui-même reçoit et signe une convention avec le ministère. Je vois pas un ministre dire à une fédération ou aux fédérations et du sport professionnel, là, si vous faites pas faire ça, on vous coupe les trucs, on vous coupe les subventions. D'autant plus que dans la plupart des fédés, il faut le savoir, la part aujourd'hui des subventions publiques sont minoritaires. Parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Mais aujourd'hui, c'est minoritaire. Ça représente quoi pour certaines fédérations comme le football ou comme le handball ou des grosses fédérations comme le rugby? Ça représente 10%, 15%. Mais oui, les fédés aussi, elles trouvent de l'argent avec sponsors. Donc aujourd'hui, l'État, c'est difficile pour l'État de faire quelque chose. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est effectivement la taxe buffet, c'était très intelligent. Donc ça, c'était la solidarité entre sport professionnel et sport amateur. On peut penser à un autre type de taxe pour la solidarité interdiscipline.
La discipline qui
est... voilà, les disciplines qui rapportent, parce que les médias, voilà, pour ne pas citer le foot par exemple, mais d'autres, eh ben, pourraient être solidaires. Ça permettrait de redistribuer aussi ces richesses qui sont qui ne vont que dans une minorité de sports.
Et vous parlez de sportifs. De financement public, mais souvent les équipements sportifs sont communaux ou intercommunaux.
C'est ça.
Donc ça peut être aussi un levier. Enfin là, c'est pas l'État, c'est les collectivités.
De moins en moins quand même. Qui pourraient intervenir. Il y a les PPP quand même, les partenariats.
Mais c'est une minorité.
Aujourd'hui, je pense que
c'est. Citez-moi, c'est sur les doigts d'une main.
Ah, c'est possible,
oui. Ouais, c'est une minorité.
Je pense qu'en France, on est encore sur des stades municipaux.
Et bien sûr.
Sur les petites infrastructures.
Et c'est peut-être là aussi où les collectivités pourraient imposer.
Mais c'est un outil de communication pour elles, pour ces communes. Mais c'est un outil de communication. Je ne vois pas un maire dire ou un président de communauté d'agglomération dire demain, vous n'avez plus le droit d'utiliser. Je suis dans cette réalité, je vois vraiment, ça, c'est pas possible, je le vois pas. C'est pas possible parce que tout le monde a y gagné aussi. Mmh. Tout le monde a y gagné. Donc, à un moment donné, faut vraiment que des citoyens, les politiques, il faut. Alors, il y a des gens, je noircis un peu le tableau parce que il y a eu un rapport, là, parlementaire, il y a un an à peine, Non, Régis Ojoanico qui a présenté à l'Assemblée nationale sur la solidarité sport professionnel et sport. Et puis il y a un rapport sénatorial là, qui est sorti il y a quelques mois sur les rapports collectivité territoriale et sport professionnel, où il y a quelques propositions intéressantes effectivement pour essayer de réguler un peu plus. Voilà. Mais des méthodes comme vous dites un peu ça je le vois pas parce que tout le monde en profite et même les communes, même les communautés d'agglomération. On aime bien quand on parle de sa ville, par le foot ou par le... Ah, si, ça fait plaisir, ça donne une fierté.
Oui, enfin, ça peut aussi donner une image inverse. Si on prend le Mans, le MMA Stadium, enfin voilà.
Mais vous prenez une exception, citez-moi un autre.
J'en ai qu'une. C'est sur les doigts de la main aussi. C'est
et voilà. Et voilà.
Mais non, mais c'est à double tranchant en fait.
Non, mais ça, vous avez pris des bons exemples aussi. Mais le PPP, ça, tout le monde y est revenu. Même dans le mouvement sportif, on arrête de demander de faire des salons en PPP. Hein. On a compris que c'était pas ce qu'il fallait. Hein. Et les clubs qui aujourd'hui utilisent de telles structures, ça leur coûte beaucoup d'argent.
Juste partenariat public-privé pour
Partenariat public-privé. Ouais. Donc ça, on a compris que c'était pas bien. Mais voilà. En tout cas, je voulais juste aussi vous remettre les choses sur le plan économique. Le sport en France, c'est entre 35 et 36 milliards, c'est-à-dire 35,5 milliards. Le sport business dont vous parlez, là, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est 5 milliards sur ces 35 milliards. Ok, ça remet
les
choses.
C'est quoi les 30 milliards
Eh ben, c'est le reste, c'est les activités, c'est le sport amateur, c'est les équipements sportifs, c'est ce que vous achetez, c'est les associations, c'est tout le reste.
D'accord.
C'est tout le reste.
Ça resitue un peu.
Ça resitue un peu les choses. Seulement, là où le bas blesse, c'est que ce que l'on voit à la télé.
Médiatiquement, c'est.
Ben oui, et ben oui, donc ça déforme, notre représentation de la réalité. Voilà.
Peut-être un mot sur le fair play financier, on en entend beaucoup parler, Mirage ou même du positif.
Là encore, c'est une tentative de régulation interne. Bon, après, pour ceux qui connaissent pas, c'est un système qui permet au niveau européen, là, pour le coup,
De l'UEFA, pas
et de l'UEFA, oui.
Des institutions
européennes. Oui, donc en interne, au niveau du football, de sanctionner des clubs qui auraient un niveau de déficit trop important par rapport à leur budget de fonctionnement. On voit d'ailleurs que les premiers clubs à avoir été sanctionnés, c'est les clubs où les Qataris et les Émirs sont venus mettre le plus d'argent possible, Manchester City, le PSG, etc. Donc en les sanctionnant à la fois financièrement et aussi en termes de compétition, ça reste encore... c'est une tentative de régulation, c'est tout frais, c'est la première année que c'est mis en place, il faut encore voir où est-ce que ça va nous mener. Alors, a priori, les critères seront de plus en plus contraignants au fur et à mesure que les années vont passer. On est dans la bonne direction, on verra ce que ça donne. Moi, je suis pas persuadé que ça suffise, parce que tant qu'on sortira pas de la religion de l'économie... et de la croissance, on aura de toute façon un système sportif qui sera qui sera là pour engendrer de l'argent à partir des corps.
Ouais, maintenant, les clubs vendent même des droits de propriété de joueurs à des sociétés tiers.
Oui, puis, vous avez des joueurs de foot qui sont propriétés d'agents de joueurs.
Ouais. Ou de sociétés.
Ou en partie. Donc il y a par exemple des joueurs brésiliens qui sont détenus à 30% par des agents. Donc ils ont une jambe et deux bras, je pense.
Ouais, c'est ça.
Et puis l'autre partie qui est détenue par... Par une société, donc là on arrive à une marchandisation du corps à l'extrême.
Puis il me semble un footballeur américain qui a été coté en bourse aussi, qui sait. On arrive à des choses qui font peur.
C'est aussi ça, le sport.
C'est le mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter l'heure?
Faites du sport.
Quand même.
Voilà.
Absolument. Ne faites pas que regarder la télévision.
Mais n'oubliez pas de vous amuser en faisant du sport.
Prenez du plaisir. C'est voilà, un jeu plaisir. Au départ. Ouais. Des sports. S'amuser, se divertir avant tout.
Mais en tout cas, merci beaucoup, Béatrice Barbus et Thomas Avenel, d'avoir répondu présent pour cette émission. On remercie Claude aussi, qui a assuré la technique de l'émission. Je vous rappelle que l'émission de ce soir est rediffusée mercredi matin à 7h sur 106.3 FM, qui est également téléchargeable sur le site de la Fondation Copernic, que nous faisons une pause estivale, qui sera assurée par des rediffusions, et que nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission, donc au mois de septembre. Et nous nous quittons sur une musique de Moriarty, Buffalo Skinners. Merci à tous.